Cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance, pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur te convient. Par le biais de ce message, laisse ton esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Je vais commencer aujourd'hui avec vous un sujet sur un thème extrêmement important, un thème de la plus haute importance pour Dieu. Ce sujet-là est tellement important que Jésus-Christ lui-même y a destiné son tout premier miracle. Qui sait à quelle occasion Jésus-Christ a fait son premier miracle? Je veux... Où ça? Dites fort. Au noces de Cana. C'était lequel est le miracle de Jésus? Le premier miracle de Jésus a consisté à changer de l'eau en vin pour que, à des noces, il y ait encore du vin. Le vin étant venu à manquer. Ce miracle-là a très souvent été mal interprété ou a été très souvent pris de manière assez banale. Ceux qui ont envie de s'enivrer, dit Jésus même, il a fait du vin, donc faites le vin, on va boire. Je ne parle pas à ces gens. Il ne faut pas avoir de telles pensées. Mais quand vous regardez le texte attentivement, parce que nous aurons l'occasion de le lire tout à l'heure, vous vous rendrez compte que les choses qui se sont produites et la façon dont elles se sont produites cachent un mystère. Le miracle de Cana, le tout premier miracle de Jésus, est un code. C'est un code. Dieu a renfermé dans ce miracle-là un secret, sinon des secrets. Il a renfermé dans ce miracle le secret pour restaurer le vrai sens du mariage, pour restaurer le bonheur conjugal, pour restaurer la famille. Beaucoup de personnes ont vu dans ce mariage juste un miracle pour changer de l'eau en vin. Détrompez-vous. On banalise ce miracle, on va considérer beaucoup plus Jésus qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles. Mais moi je crois que lorsqu'on a une vie qui a une destinée, lorsqu'on a une chose qui est importante dans la vie, la première des choses qu'on fait est souvent une des choses qui nous est très importante, n'est-ce pas? Le premier miracle de Jésus n'a pas consisté à faire marcher un paralytique. Le premier miracle de Jésus, ce n'a pas été de donner à manger à ceux qui avaient faim, ceux qui étaient aux noces. S'il y avait du vin, il n'y avait pas de vin, est-ce que ça allait les tuer? Je veux dire, ce n'était pas dramatique. Il y avait déjà un premier vin, le vin venait de finir. Bon, ils allaient se contenter, maintenant après ils allaient boire de l'eau. Mais Jésus est venu et il a posé un acte qui peut... On peut se demander, mais quelle est la portée, Jésus? Vraiment, pour ton premier miracle, vraiment on s'attendait à que tu résolves un vrai problème, quoi. Parce que le vin à un mariage, ça c'est un supplément, c'est la cerise sur le gâteau. Je lui ai dit, bon, s'il n'y en a pas, de toute façon il y en avait, mais c'est fini. Donc, on était vers la fin de la fête, franchement. Ton tout premier miracle, ça veut dire, Jésus, la façon dont tu veux initier ton ministère, là, c'est pour faire quelque chose qui n'est pas de première utilité ou quoi. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que Dieu me demande de lire attentivement le passage et de comprendre qu'il y avait dans ce texte des codes. Dis avec moi un code. Un secret. Alléluia. Le mariage est une chose qui est banalisée ou qui est très mal pris, considérée. Amen, amen, amen. Au travers de cet enseignement que nous allons partager à partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut aider chacun d'entre nous, ceux d'abord qui ne sont pas mariés, qui aspirent au mariage, ou qui pour le moment savent que ce n'est pas leur moment, ce n'est pas leur temps de chercher à se marier. Dieu veut les former pour savoir comment rencontrer l'homme ou la femme qu'il leur faut. C'est très important. Ta destinée en dépend. Tu ne peux pas marier n'importe qui. Tu vas apprendre qu'on ne marie pas une personne parce qu'on est tombé amoureuse. On ne marie pas une personne parce qu'on est tombé amoureux. Ce n'est pas suffisant. Si tu te maries parce que tu es amoureux, 7 ans plus tard, ton couple aura des problèmes. Quand je le vois, mon cœur se coupe. Marie-toi avec ton cœur se coupe. Marie-toi. Dans 5 ans, quand tu le vois maintenant, quand je le vois, j'ai envie de le griffer. Avant, quand tu le voyais, ton cœur faisait... Pour lui, tu étais prêt à casser ton compte. Ah, il y en a qui ont cassé les comptes même déjà. Pour elle, tu étais prêt à toutes sortes de folies. Pour elle. Maintenant, elle te demande après le mariage, chérie, donne-moi 5 000, on va aller faire le marché. Ah, quitte-la. Vous gaspillez l'argent. Abidjan, si tu penses qu'on ramasse l'argent. Ça, c'est 5 ans après le mariage. Oh, quelques temps avant. Tu veux quoi? Oh, je vais aller faire mes cheveux. Oh, je t'accompagne. Tiens. Et que tu penses à elle. Il y a 5 ans, avant le mariage, des petits SMS à toutes les minutes. Où tu es? Je suis là. À quel endroit? On déjeune ensemble? Nénéné. 5 ans plus tard. Chérie, je vais aller chez le coiffeur. Vos cheveux là, vos cheveux, il y a quoi? Alléluia. Ça, c'est le mariage. Tu te souviens ce que tu vis maintenant? Il y a quelques années, cette femme-là, tu ne pouvais pas passer 10 minutes. Sans penser à elle. Maintenant, tu fais 3 jours même. Tu ne sais même pas même que tu es marié. On doit te rappeler. Tu vas en mission, même l'appeler pour lui dire bonjour. Elle doit t'appeler ou bien par hasard, tu as un truc à demander. Avant, tu l'appelais chaque 15 minutes. Maintenant, même elle t'appelle, même tu es déjà en colère. Quand tu vois son numéro, ah! Ça, c'est pour me dire quoi encore? Oh, les gens, ils fatiguent Abidjan. Or, avant, dès que tu vois son numéro, même si tu étais en réunion avec le DG, s'il te plaît, je suis en réunion, je te rappelle. Ça, c'était avant. Mais maintenant, tu suis en réunion, il y a quoi? Oh là! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pourquoi la plupart des mariages, aujourd'hui on arrive dans des statistiques qui nous montrent que la plupart des mariages se séparent. Même si les personnes ne vont pas devant le juge pour divorcer, ils sont avec le titre de mariage, mais dans leur maison ils sont séparés, dans leur cœur ils sont séparés. La plupart des couples sont séparés, même si apparemment ils sont ensemble. C'était des personnes, il y a quelques années auparavant, ils ne pouvaient pas respirer sans se voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de personnes ont tant de difficultés à trouver le conjoint idéal? Pourquoi tant de problèmes au niveau des familles? Pourquoi? Et comment y remédier? Est-ce que Dieu a une solution? La solution de Dieu se trouve dans ce premier miracle. Le code, l'eau transformée en vin, contient un secret puissant. Les couples seront restaurés avant la fin de ce séminaire. Je te dis, la vision que tu as de la chose sera restaurée. Quelqu'un est en train de me dire, mais pasteur, il n'y a pas d'autre sujet dans la Bible plus important? Il y a d'autres sujets dans la Bible. Jésus est plus important. Mais le mariage est de première importance. Là, et les couples en difficulté ne sont pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, même dans l'église. Parmi les pasteurs, on a beaucoup de divorces. Des grands hommes de Dieu se séparent. Pourquoi? Parce que les personnes ne savent pas, ne comprennent pas, n'ont pas pris le temps d'étudier, d'apprendre, de savoir ce que Dieu dit concernant cet événement, ces moments importants et majeurs dans la vie. Les hommes banalisent le mariage. Voilà ce que Dieu dit. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 4, le Seigneur dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Il est à l'écran. 1, 2 et 3. Amen. Dimanche dernier, j'ai lu aussi ce texte, parce que dimanche, j'étais en train de poser, de faire les premières bases de notre message. Et on a lu d'autres versions où il est dit, le mariage est sacré. Dis avec moi, sacré. Sacré. Ton Dieu dit que le mariage ne doit pas être pris banalement. C'est ce que le texte est en train de dire. Ne vous amusez pas avec l'histoire du mariage. Ce n'est pas une affaire simple. L'apôtre Paul dit dans le livre de Timothée, dans le livre d'Éphésiens, il dit, il y a un mystère dans le mariage. Ce n'est pas une petite, ce n'est pas un truc banal. Le mariage est sacré. Dis avec moi, sacré. La Bible dit, tout le monde, c'est-à-dire les mariés, les non-mariés, ceux qui n'ont pas envie de se marier, tout le monde doit respecter le mariage. Ça signifie que tout le monde doit savoir l'importance du mariage, même ceux que ça n'intéresse pas. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est sacré. Alors, c'est quoi qu'une chose qui est sacrée? Une chose qui est sacrée est une chose qui donne de la valeur à un endroit donné. C'est une chose aussi dont la gestion doit être méticuleuse. On doit faire vraiment attention. Vous voyez, dans nos villages, souvent avant, on avait des forêts sacrées, n'est-ce pas? La forêt sacrée est la force des villages. C'est pas ça? Mais de même que la forêt sacrée est la force des villages, de même si tu t'amuses dans la forêt sacrée, tu vas avoir des problèmes. Bon, là, ce sont les démons. Hein? Les forêts sacrées, n'ayez pas peur. Moi, dans mon village, il y avait une forêt sacrée. Je suis rentré là-bas et j'ai chassé les démons. Dès même, je rentre là-bas, je coupe les choses parce que on n'a pas adoré les arbres. Ok? Mais dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont sacrées. Une chose qui est sacrée est une chose qui est puissante, qui a une puissance. Et la puissance peut produire du bien si elle est bien contrôlée et gérée, comme elle peut aussi détruire. C'est pareil pour le mariage. Le mariage peut te propulser, comme le mariage peut te ruiner. Le mariage peut te conduire dans la gloire, comme le mariage peut te conduire dans la déchéance émotionnelle, dans le suicide, dans la dépression, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la cigarette, dans le suicide. Combien de personnes sont suicidées à cause du mariage? Le mariage, c'est dangereux. Mais c'est puissant. Dis avec moi, c'est puissant. Le mariage est puissant. Amen. Vous voyez une chose sacrée, un peu comme l'avion. Vous voyez l'avion? L'avion, c'est sacré, hein? Si tu n'as jamais pris l'avion pour voyager, là, et puis on te dit, demain, tu prends l'avion pour aller aux États-Unis. La veille, là, tu n'as pas dormi. Ton cœur bat. Je voyage demain. On dit, mon frère, il faut dormir. La route est longue. Oh, tu es excité. Et ton corps même, parce que tu sens qu'il y a un événement. Voilà. Le prix du billet fait que quand tu as payé un tel montant pour prendre l'avion, tu ne peux pas t'amuser à être en retard à l'aéroport. Si tu as payé le car pour aller à Yamoussoukro, tu peux être en retard. Tu as dit rembourser mon billet. Bon, en tout cas, tu n'as pas trop pleuré. Mais l'avion, là, quand tu as pris le billet, là, en tout cas, quand c'est la première fois, quand tu es nouveau, tu es à l'aéroport avant tout le monde. Il ne faut même pas, on va s'amuser. L'avion est un objet qui nous donne d'atteindre une distance très rapidement. qui développe, qui déploie notre potentiel. L'homme a la capacité de se déplacer, mais avec l'avion, il se déplace 1000 fois plus vite, 10 000 fois plus vite. En 6 heures de temps, il parcourt des distances infranchissables. Mais de même que l'avion est si important, si puissant, l'avion nous aide. De même, l'avion est dangereux. Parce que quand l'avion tombe, c'est sans pitié. Ça veut dire, si tu es rescapé là, tu seras, on va te fêter dans ton pays jusqu'à ta mort. On dit, parce que le rescapé, c'est un événement même. De la même manière qu'il facilite la vie, mais quand il s'arrête, lorsqu'il est mal géré, vous voyez, la vie est une chose sacrée. C'est comme ça, le mariage. Le mariage vous propulse vers votre destin, mais il peut bloquer net votre vie. L'avion doit savoir être utilisé si tu dois le conduire. L'avion est une bénédiction pour l'humanité, mais l'avion peut devenir malédiction si tu ne sais pas conduire l'avion. Le mariage est une bénédiction. Le mariage va te propulser vers ton destin, mais le mariage peut te détruire si tu ne sais pas l'utiliser. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Dieu dit que le mariage est sacré. Il faut en faire attention. Le mariage va vous propulser. Le mariage décuple des choses en vous. On le verra plus tard. Le Seigneur demande d'honorer le mariage. Le Seigneur dit que le mariage est tellement important que la négligence du foyer, de la famille, peut bloquer net votre foi, vos projets. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, on peut le voir à l'écran, 1 Timothée 5, 8. On le lit ensemble, cher ami. 1, 2, 3. Et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Amen. Dis waouh. C'est dangereux ce verset. Le verset dit, si tu ne t'occupes pas bien de ta femme et de tes enfants, madame, si tu ne t'occupes pas bien de ton mari, parce que peut-être tu es fâché avec lui, si tu ne lui donnes pas ce que tu dois lui donner, si tu ne prends pas soin de ta famille, tu as régné la foi. C'est-à-dire, tu as beau venir à l'église pour prier, Dieu considère que la foi, là, c'est nul. Le mariage est tellement important qu'il est capable de vous faire régner Dieu sans que verbalement vous ayez régné Dieu. C'est ce que Paul dit. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi. C'est-à-dire, tu n'as jamais dit que tu abandonnais Dieu. Mais parce que tu passes ton temps ailleurs et tu n'éduques pas tes enfants convenablement, tout ton zèle à l'église est nul. D'ailleurs, ce n'est pas nul, c'est à moins. C'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes se sont détournées de Dieu inconsciemment. Pendant qu'ils prêchaient la parole de Dieu, ils annonçaient les choses de Dieu, mais il y avait un problème. Leur famille n'allait pas bien. Et souvent, la famille ne va pas bien. On peut accuser le conjoint, on peut accuser l'un l'autre, on peut s'accuser, mais peu importe. Si on n'arrive pas à assumer cette responsabilité, on a renié la foi, dit l'Écriture, on est pire qu'un infidèle. Elle dit, celui qui ne croit pas en Dieu, là, on l'appelle l'infidèle. On dit, tu es plus dangereux que lui. Toi, tu crois en Dieu. Mais parce que tu ne sais pas donner l'amour à ta femme, tu es pire qu'un infidèle. Alors, au vu de ces deux textes, vous devez être conscient que le mariage est de première importance. Vous ne pouvez pas prendre cette affaire de manière banale. On ne se marie pas au hasard. L'Église, quand on dit, je l'ai vu, je l'ai aimé. Nous nous aimâmes et nous nous mariâmes. Un jour à la mairie. Arrêtez de croire que le mariage est venu devant le maire avec cette robe blanche. Tu t'imagines ce jour-là. Il ne faut pas banaliser cette affaire. On dit, je vais me marier comme mes copines. Oui, devant le maire. Tu réfléchis à la façon dont tu vas dire oui. Ce n'est pas ça le mariage. On n'est pas en train de parler de la cérémonie. On parle de ta vie. Alors, pourquoi le mariage est si important? Je veux rappeler aussi que lorsque la Bible dit « régner la foi », le Seigneur ne parle pas seulement de la foi en Christ. Il parle aussi de la foi pour atteindre tes objectifs dans la vie. Parce qu'il faut de la foi pour monter tes entreprises. Il faut de la foi pour réussir. La Bible dit que celui qui ne réussit pas son foyer ne va pas atteindre ce que sa foi est censée produire. La foi vous fait rêver. J'ai compris que quand vous ratez votre mariage, vous réduisez par au moins 10 ce que vous étiez capable de faire. Si tu étais capable de monter une entreprise qui allait être une multinationale, si tu échoues ton mariage, tu vas monter une seule boîte. Si tu devais avoir une promotion, être une élévation, si tu rates ton mariage, tu seras bloqué. Peut-être que tu auras de l'argent pour manger et pour vivre. Ne fais pas l'erreur de te comparer aux autres, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu as besoin de réussir ton mariage. C'est pourquoi nous avons marqué ceci, réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. Quelqu'un dit amène avec moi. Alors rapidement, pourquoi le mariage est si important? Pourquoi le mariage est sacré? Qu'est-ce que le mariage apporte de bien dans la vie? Qu'est-ce que le mariage apporte de bien? Parce que avant de chercher ton conjoint, avant que je prie pour toi, il faut savoir ce en quoi tu veux t'engager. Amen. Amen, amen. Parce que le mariage, la première raison, il y en a plusieurs, mais je répéterai ici 4. Et au fil des messages, je citerai quelques autres raisons de l'importance du mariage. Une première raison, le mariage vous permet de découvrir et de développer votre véritable potentiel. Alléluia, dis avec moi potentiel. Le potentiel, je l'ai expliqué il y a quelques dimanches, ce sont certaines capacités, certaines aptitudes qui sont en toi, mais qui ne sont pas exploitées. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas, mais en toi, il y a une grande capacité de produire des CD, de chanter. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu es un manager entrepreneurial hors pair. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es un grand peintre. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es un chanteur extraordinaire. Peut-être que tu ne le sais pas. Et je t'assure que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu ignores ton potentiel. Tu ignores ce que tu vaux. Le mariage est une des clés qui va permettre de faire ressortir ton vrai toi, ta vraie valeur. Alléluia. Alléluia. Moi, sans mon mariage, je n'allais pas être pasteur d'église. Sans ma merveilleuse épouse. Et Dieu merci. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais bien sûr élève, je prêchais la parole et j'étais convaincu que j'étais un évangéliste et que je ne devais jamais diriger une église. Vous me suivez? J'ai écrit que moi, je ne vais jamais faire église. Mais Dieu avait mis en moi le potentiel de pasteur. J'ai trouvé que l'église était compliquée, tout ça. Mais Dieu m'a mis. Je voulais jamais chanter. Mais quand j'étais plus jeune, je me souviens que j'avais une oreille qui savait reconnaître la musique. Et puis après, quand j'ai vu les chanteurs, je les ai trouvés bizarres. J'ai dit, moi, en tout cas, je suis prédicateur. Et puis, je l'ai rencontré. Mais je n'étais pas prêt. Je venais de finir le bac et je l'ai rencontré au détour d'une sortie de culte. Je vois la sœur. Mon cœur a fait quelque chose, mais je me suis maîtrisé. Bref, j'étais un évangéliste, un gars qui prêchait la parole. Je prêchais la sainteté, la sanctification à l'église. Quand tu me vois, tu ranges ta vie en même temps. Mais si tu as péché, je dis, repens-toi. J'étais consacré. Je crois que Dieu m'a donné un cœur bon. J'aime les gens. Mais en devenant chrétien, la frustration qu'il y a eu entre mes parents et moi, parce que je suis d'origine musulmane, m'avait refroidi. J'étais devenu quelqu'un maintenant de froid. Parce que j'avais peur d'aimer à nouveau, parce que aimer faisait souffrir. Donc, j'avais peur de dire à quelqu'un, je t'aime. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai tout spiritualisé. Dieu dit, elle aussi, c'est une femme spirituelle. Hein. Nous avons reçu que c'était la volonté de Dieu. Au lieu de se demander si on s'aimait, non, c'est Dieu seulement. Mais en ce moment-là, elle ne me connaissait pas vraiment. J'étais dangereux. Heureusement que je ne me suis pas marié à cette époque. Merci Jésus. Quand je l'apprends, On va évangéliser, on va parler de Dieu. Le mot je t'aime là, ça ne sort jamais de ma bouche. Pendant la période de fiançailles, on a fait près de une année. Je ne lui ai jamais donné de fleurs, jamais invité à la locodrome, jamais invité à un shawarma. Quand on se rencontre, prions. On se rencontre, jeûnons. On se rencontre, cherchons la face de Dieu. Jésus revient bientôt. La population meurt sans connaître Christ. Et c'est toujours comme ça. Dès que je l'appelle, ou bien je lui ai écrit, en ce moment il n'y avait pas internet, donc il n'y avait pas les mails là. On s'écrivait boîte aux lettres, à la poste. Donc j'écrivais des courriers, je peux écrire 5 pages, 7 pages. Dans toutes les pages là, il n'y a même pas « je pense à toi, tu me manques » ou « je t'aime ». Tout était des études bibliques et théologiques. Je dis, tu sais, nous allons nous marier, il faut que je t'explique toutes les révélations que le Seigneur m'a faites sur la parole de Dieu. Une page, deux pages. Un jour, elle me répond, elle dit, est-ce que je ne lis pas tes courriers là? Et puis je dis, mais si tu savais tous les trésors de révélations que je mettais dans mes lettres. Un jour, je suis en train de prier, parce qu'on avait commencé à se disputer, ça devenait froid. C'est quand même un gars bizarre comme moi. Je prie et puis Dieu me montre. Il dit, va à Abidjan. J'étais à Yamoussoukro en ce moment. Il dit, retourne, dis-lui que tu l'aimes et puis fais-lui un présent. Aujourd'hui, cette fois-ci-là, ne parle pas de prière. Offre-lui une fleur, un petit présent et puis dis-lui que tu l'aimes. Quand j'ai entendu cette voix, je ne sais pas. J'ai dit, Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Au lieu, si Dieu veut que je la rencontre là, c'est pour prier. Ça ne peut pas être pour aller manger. C'est ça, ça, non. Et puis je l'appelle. J'ai dit, Liliane, j'arrive à Abidjan. On va prendre une journée. Comme ces derniers temps, on ne s'entend pas trop. On va prendre ce temps-là pour chercher la face de Dieu. Pour jeûner et pour prier. Elle me répond au téléphone, je ne jeûne pas. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas jeûner. Mais mon esprit, ma manière de faire, ce n'est pas la bonne. Après, un jour, elle m'envoie un courrier, elle me dit, il y a une différence entre une épouse et un collègue de ministère. C'est pas pareil. Tout ça là, je ne comprenais pas. Mon cœur était fermé. Vous savez, il y a des choses que vous dites à des gens, ils ne comprennent pas. Et nous nous sommes séparés. Elle n'en pouvait plus. J'étais convaincu que c'est moi qui avais raison. J'ai dit à Dieu en priant, parce que pour moi, c'était ma femme. Hein. Donc, je dis, il faut qu'elle revienne. Je chasse tous les démons qui veulent la distraire, qui veulent la séparer de moi. Tout ça là. J'ai pris un groupe d'amis, on jeûnait et priait. Je dis, Seigneur, tu vois, convainc-la de péché parce qu'elle a tort. Elle ne comprend pas que c'est le diable qui veut nous distraire et nous séparer. J'ai prié comme ça une année. La deuxième année, Dieu me dit, et si c'est toi qui avais tort? Je dis, comment? Celle qui m'a dit, elle ne veut plus. Il dit, mais tu as tort. Et Dieu va prendre 3 ans pour me façonner, pour me former, m'expliquer ce que c'est que aimer. Il va guérir mon cœur des blessures intérieures. Je n'étais pas mariable avec un cœur qui ne savait pas aimer. Un homme qui ne sait pas aimer est un danger. Une femme qui ne sait plus pardonner ne peut pas bâtir un foyer. Regarde, si Dieu ne t'exauce pas, il y a un problème en toi. Peut-être que tu as forcé, tu es rentré dans le mariage parce qu'il y avait des circonstances. Mais ce que tu veux faire dans le mariage, là, tu ne pourras pas l'atteindre. Ton couple ne peut pas être épanoui parce qu'il y a un mécanisme qui a été dérangé. Quelqu'un comme moi n'était pas mariable. Le mariage tarde, ton mariage tarde parce que Dieu t'aime. Il sait que si tu te maries maintenant là, tu vas fatiguer le monsieur va te fatiguer, vous allez vous fatiguer, vous allez fatiguer vos enfants, vous allez vous détruire. Dieu dit, ma fille, attends. Tu dis, non, je cherche à moi. Il paraît qu'avant, il y a beaucoup de monsieur, je vais aller voir là-bas. Tu cherches avec tes yeux, laisse les gens tranquilles. Il y a un problème. Tu n'es pas guéri de ta précédente rupture. Le problème que tu transportes avec le monsieur qui t'a trahi là, tu vas le transporter dans ton foyer actuel. Et Dieu veut te guérir, mais tu n'entends pas sa voix, tu entends autre chose. Depuis longtemps, tu devais te marier. Tu es en train de prendre du retard à cause de toi-même. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Je disais que le mariage permet de développer le potentiel. Mais parce que je savais que c'était elle et que je me suis adapté. Dans ce temps de douleur, parce que Dieu a mis vraiment l'amour de ma femme, ma fiancée à l'époque, dans mon cœur. Je lui parle, elle ne veut plus. Je dis, bon, J'envoie fleur, mais je ne sais pas. Moi, je ne pas donné. Comme je n'avais pas appris, ce n'était pas naturel là. Je faisais ça comme un robot. Et tu viens, je viens la voir. Dieu m'a dit de te donner des fleurs. Tiens, fleurs. Elle dit, qui a dit? Ce n'est pas moi-même qui a eu à cœur de lui faire les fleurs. J'ai dit, j'ai prié. Dieu m'a dit, tiens, fleurs. Fleurs. Allons manger. Ce n'est même pas naturel. Donc, elle ne voulait pas parce que je n'étais pas prêt. J'ai dit, mais Dieu, tu m'as dit de lui donner des fleurs, non? Je lui donne, mais ça ne marche pas. J'ai dit de l'inviter manger. Et je suis parti, je l'ai invité, elle dit, elle ne va pas. Et Dieu va me former, je vais comprendre. Et vous savez que c'est dans cette douleur-là, parce que je priais pour que ça aille, que je vais commencer, je vais recevoir beaucoup de mes chants avec la guitare. Et le potentiel qui était caché en moi de la chanson va apparaître. J'étais pur évangéliste. À Yam Sokro, j'ai travaillé comme évangéliste. Mais l'enseignement, enseigner la parole, comprendre les écritures, là, c'est ce qui va déclencher. Donc, ce qui a bâti vase d'honneur, c'est l'enseignement, expliquer les choses de Dieu. La révélation que j'avais des écritures, c'est notre confrontation qui va ouvrir mes yeux à cela. J'ai compris que, en fait, la famille, le foyer, permet à une personne de se surpasser, d'aller creuser le trésor que Dieu a déposé en lui. Il y a un trésor qui est en toi. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens 4, 7. Il a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il y a un trésor en toi, ma sœur. Tu es une personne de valeur. Il y a un talent que toi-même tu ignores, que tes voisins ignorent. Une capacité, un potentiel. La Bible dit ceci, pour prouver de quoi je parle. Dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 17. Voyez cela à l'écran, on peut le lire ensemble. 1, 2 et 3. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Dans la version Semeur, Proverbes 27, 17 dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Qu'est-ce que Dieu nous révèle? Que ce que nous sommes ne s'affine ou ne se manifeste au contact, ne se manifeste qu'au contact d'une autre personne qui vient nous toucher. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Les chairs, à un moment donné, vont s'affronter. Vous savez, quand je vais comprendre, quand je vais aller dans le message, vous allez comprendre que quelques disputes sont très utiles dans votre foyer. Il y a des choses que vous prenez pour des drames, mais qui ne sont pas des drames. Bref, c'est une parenthèse, je ne suis pas encore arrivé sur le sujet. Mais la Bible dit que, de même que le fer aiguise le fer, c'est l'homme qui aiguise l'homme. Donc, ce n'est pas Dieu qui aiguise l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu te donne le potentiel. Dieu te donne les capacités. Dieu te donne la capacité de chanter. Dieu te donne le don de danser. Dieu te donne une intelligence supérieure. Dieu te donne une sagesse supérieure. Mais la sagesse là va s'aiguiser au contact et souvent des contacts antagonistes avec une autre personne. Et la personne de qui tu es suffisamment proche pour être constamment en train d'être aiguisé, c'est ton conjoint. Quelqu'un me comprend? Parce que les autres, tu peux les fuir. Il vient et tu dis, toi, tu es blessé et je ne te parle plus. Quitte ma vie. Et tu changes de camarade. Maintenant, l'autre, là, vous êtes marié. Tu dis, je déménage. Nous déménageons. Vous avez 3 enfants. Tu vas faire comment? Le fer va t'aiguiser. De même que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on comprend? Le mariage vient pour t'aiguiser. Vous savez, si je prends un couteau qui est émoussé, ou bien une machette qu'on n'a pas aiguisée, la mission de la machette, c'est de débroussailler, d'enlever les mauvaises herbes, pour que je puisse faire ma plantation. C'est ça la mission. Mais la machette tant qu'elle n'a pas rencontré un autre fer, elle ne pourra pas accomplir sa destinée. Vous me suivez? Le couteau de ta cuisine, dans sa forme brute, c'est un morceau de fer. On y a attaché un plastique là-dessus, un caoutchouc là-dessus. Pour qu'il t'aide à couper la nourriture, couper la viande, il faut que, au départ, il n'a pas rencontré la viande. Ce n'est pas ce qu'il coupe qui l'aiguise. C'est quelque chose de la même nature que lui, qui le transforme et qui le rend efficace. Le mariage n'est pas ta mission. Le mariage est ce qui t'aiguise pour accomplir ta mission. Tu as un destin. Tu es un homme qui doit changer cette nation et des nations. Tu es quelqu'un d'important. Mais il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te cogner bien là. Pas te frapper, pardon, ne pas frapper les gens. Puis le pasteur a dit, je vais t'aiguiser. Laissez les gens tranquilles. Je n'ai pas fini le message. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fer ne peut pas accomplir sa mission s'il n'a pas rencontré un autre fer. Alléluia. L'homme ne peut pas accomplir sa mission s'il n'a pas été confronté par l'aiguisement créé par le mariage. Le mariage développe les choses. Alléluia. Mais pas n'importe quel mariage. Le mariage réussit. Amen. Parce que si dans votre mariage, vous vous fuyez seulement, vous faites les chambres à part partout, mais vous n'allez pas vous aiguiser. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait le mariage? Pour que le talent qui est en toi puisse se manifester. Pourquoi Dieu veut que tu te maries? Pourquoi le mariage est sacré? Pour que tu puisses réaliser pleinement ton destin. C'est la deuxième raison. Pour que tu puisses voir tes projets exaucés. Deuxième raison. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu 18, 19 parle des foyers. Il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre, tout ce qu'elles demanderont leur sera accordé. Elles vont obtenir tout. Or, être en accord avec une autre personne, ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, s'asseoir et puis simplement prier ensemble. Ce n'est pas dire dans la bouche, on est d'accord, on veut tel projet. Non. Un homme est d'accord quand sa bouche est d'accord, quand son cœur est d'accord, quand sa pensée est d'accord. Je veux dire, si quelqu'un a son projet, ton conjoint a un projet, et ton cœur n'est pas d'accord, mais ta bouche dit, chérie, c'est bon, mais ton cœur dit, je ne veux pas. Ton mari et toi, vous n'êtes pas accordés. Vous me suivez? Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas ce que vous dites sur le bout de vos lèvres. Mais il regarde le cœur. Le mariage est une puissance. Et Dieu, quand il vous fait vivre avec votre conjoint, il va essayer de créer en vous l'accord. Quand tu arrives à t'accorder avec ton mari, avec ta femme, c'est trop dangereux. Rien ne vous est impossible. Rien. Rien. Tu t'accordes à la femme. Chérie, mon patron me fatigue. Ah bon? Prions. Ribaba, shababa. Vous êtes. Elle est d'accord avec toi. Vous êtes d'accord. Ton esprit, tu aimes ta femme. Vous êtes un. Aucun homme, aucune puissance, dit l'Écriture, ne pourra vous résister. À toi seul, tu ne peux pas terrasser tous les obstacles auxquels tu es confronté. Mais quand tu rencontres la personne avec laquelle tu seras d'un accord parfait, tu es une bombe. Deux valent mieux qu'un. C'est pourquoi tu ne dois pas marier n'importe qui. Il y a quelqu'un avec qui tu peux être en accord. Il y en a d'autres. L'accord sera très compliqué. Ce n'est pas dire que c'est impossible, mais il vous fera plus de temps. Mais avant que le temps arrive, là, vous allez fatiguer. S'il y a des personnes, tu les maries, par exemple, tu es tombé amoureux d'eux. Tu es tombé amoureux d'elle très rapidement. Il faut peut-être 10 ans pour créer l'accord. Mais le monsieur ou bien la femme, elle est compliquée même. Vous me suivez? Vous pouvez gagner du temps en réussissant l'étape des fiançailles. En réussissant le choix. Ça vous fait gagner du temps. Une fois que vous êtes marié, on ne fait plus marche arrière. Quand on est dedans, on est dedans. Alors, c'est encore possible, mais ça prend un peu plus de temps. Vous me suivez? Alléluia! Alléluia! Quand vous êtes en désaccord avec votre conjoint, beaucoup de projets sont bloqués. Beaucoup. Beaucoup. Madame vient expliquer à son mari, chérie, il semble que je vais avoir une promotion. Mon chéri, une promotion. Waouh! Le mari aussi, il fait comme s'il est content. Waouh, c'est super! Il est d'accord avec sa bouche, mais son cœur dit, si la femme a l'argent dans la maison là, on va avoir des problèmes. Elle va marcher sur ma tête ici. Quand on n'avait pas l'argent, on était tranquille. Maintenant, elle va avoir l'argent. Donc, son cœur est jaloux. Madame, c'est comme si à un moment donné, ce que tu étais capable de faire sera arrêté. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Sa bouche dit, félicitations. Son cœur dit, je ne suis pas content. La dame aussi, elle a peur que son mari, quand son mari veut dire, tu vas avoir une promotion. Son cœur n'est pas content, la femme. Elle dit, ce gars-là, il ne sera plus jamais à la maison. Déjà avec son premier travail, on ne le voyait pas. Hein, la promotion, je n'ai plus de mari. Donc elle n'est pas d'accord. Par contre, quand vous êtes d'accord, c'est extraordinaire. On va apprendre à créer cet accord au fur et à mesure. Amen. Mais c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Donc, le mariage vient pour booster vos projets. La vision que Dieu vous donne. Dieu vous met à deux. Vous êtes d'accord et puis les choses, les portes s'ouvrent. Les oppositions que toi seul, tu ne peux pas terrasser là. Elles s'éloignent. Tu avais besoin de certains montants, de certains financements. Tu es d'accord avec ta femme, mettez-vous en prière. Il n'y a rien à faire. Vous aurez ce que vous cherchez. Alléluia. Mais comment créer l'accord? Ce n'est pas aussi évident que ça. On va apprendre à créer l'accord dans les couples. Amen. Troisième chose que le mariage va vous donner, le mariage réussi vous donne de développer le caractère et les attitudes de Dieu. Le mariage permet de développer le caractère de Dieu. La Bible dit que l'homme a été créé, le premier Adam a été créé à la ressemblance de... Donc ça veut dire les hommes ressemblent à... Le premier homme ressemblait à Dieu. Le premier homme, on l'appelait l'humain Adam. Et puis, en Genèse 2, le premier qui ressemblait à Dieu a été séparé en deux. Vous me suivez? La Bible dit que Dieu a endormi Adam et lui a enlevé une côte et il a fait Ève avec la côte. Qu'est-ce que ça signifie? Que le premier qui a été créé à l'image de Dieu a été amputé d'une de ses parties. Donc, quand Ève est sortie étant la côte, Adam, en lui seul, n'était plus exactement l'image de Dieu. Pour que Adam redevienne l'image de Dieu, il fallait qu'il trouve sa côte. Parce que avant il était un, on l'a créé, on dit tu ressembles à Dieu. Et puis, Dieu le sépare en deux. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. En fait, l'union du mariage permet à un homme de devenir comme Dieu. Maintenant, devenir comme Dieu, il s'agit de quoi? Ressembler à Dieu, ce n'est pas avoir le nez de Dieu, les oreilles de Dieu. Non, non, non. Dieu n'a pas de nez comme nous. Dieu est un esprit. Donc, ressembler à Dieu, ça signifie autre chose. Dieu se voit par sa douceur, par son amour, par sa bonté, par sa patience, par sa puissance. C'est là qu'on voit Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? L'homme est potentiellement comme Dieu. Mais pour que cela soit pleinement manifesté, le caractère de Dieu, il faut qu'il s'associe et qu'il soit pas seulement un corps. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une seule. Mais il faut arriver à devenir une seule âme aussi. Et puis un seul esprit. Je vais l'expliquer plus tard. Quand tu dors avec ta femme, vous avez le premier rapport, vous devenez une seule chair. Et la seconde étape, en fait, je vous donnerai un secret. En fait, dans le mariage, dans un mariage, il y a trois mariages. Avec ta femme, là, ton conjoint, vous devez faire, vous allez faire trois unions. La première union, c'est l'union de votre corps. La deuxième, ça sera l'union de votre esprit, de votre âme. Mais là, on ne veut pas fêter ça à la mairie. Hein. Voilà. Ça se passe sans voix à la maison là-bas. Personne ne voit. Sauf si vous-même, vous voulez, vous pouvez faire une fête. Mais ça se produit avec le temps. Et quand ta femme et toi, vous devenez une seule âme, la grâce et la puissance qui en vous augmentent. Quand vous devenez un seul esprit, ça monte encore. Mais ce sont des choses qu'il faut atteindre. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors pour développer le caractère de Dieu, il faut réussir le mariage. Et la dernière raison que je ne développerai pas, mais que je développerai plus tard, c'est pour votre mariage permet de faire venir le règne de Dieu. Amen. Alors juste ce texte, pour pouvoir terminer. En introduisant mon message, je vous ai cité le miracle de Jean chapitre 2. Le premier miracle de Jésus. Je vous ai dit, ce miracle-là a un code. Il explique beaucoup de choses. J'ai déjà abordé le sujet ici à vase d'honneur. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir encore de nouvelles révélations, de comprendre de nouvelles choses. Et c'est ce dont nous parlerons. Le texte, nous l'avons lu dimanche dernier, je vais encore le relire. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Pour qu'on soit réveillés, lisons ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi. 3 jours après, il y eut des noces. Ça veut dire mariage. À Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces de Cana avec ses disciples. Maintenant, écoutez-moi. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Je vous disais tantôt que ce miracle de Jésus, ce premier miracle, est assez particulier. Il est vraiment différent de tous les autres miracles de Jésus. Maintenant, voici les choses étranges dans ce texte. Parce que, dis avec moi, étrange. C'est un texte bizarre. Vous n'avez pas remarqué que c'est bizarre? Il ne faut pas que c'est bizarre. Mais voici les choses que j'ai trouvées bizarres, qui ont attiré mon attention. Premièrement, la Bible dit qu'ils sont invités à des noces. Le vin est venu à manquer. D'abord, je rappelle, qui connaît le métier de Jésus? Jésus, avant d'être, qu'est-ce qu'il faisait? Charpentier. Ok? Donc, il n'est pas vigneron. Il ne vend pas le vin. Le verset 11 nous a dit que c'était le premier miracle de Jésus. Ça signifie quoi? Qu'avant cela, il n'avait fait aucun miracle. Donc, quand Jésus était enfant, il n'a pas fait de miracle. Sinon, ça n'allait pas être son premier miracle. Ça allait être son deuxième ou troisième miracle. Donc, c'est le premier miracle de Jésus. Donc, on ne l'a jamais vu faire de prodige. C'est son tout premier miracle. La Bible dit que le vin est venu à manquer. Sa mère Marie va le voir lui. Est-ce que c'est convenable? Quand il n'y a plus de vin, on va voir qui? On va à la boutique. Elle va voir Jésus qui est un charpentier qui n'a pas de boutique de vin. Elle lui pose la question. Ils n'ont plus de vin. Première chose bizarre. Donc, on ne peut pas dire que Marie avait déjà vu un miracle. Parce que si elle avait déjà vu un miracle, comme la multiplication des pains, elle aurait pu dire, j'étais déjà vu guérir des malades. Tu as pris du pain, tu les as multipliés. Vraiment, les gars n'ont plus de vin. Fais quelque chose. Mais il n'y avait aucun antécédent. Donc, elle vient, on ne sait pas, elle s'appuie sur quoi. Et elle dit, ils n'ont plus de vin. Logiquement aussi, Donc, premièrement, je trouve Marie bizarre. Je trouve aussi Jésus bizarre. Jésus est bizarre parce qu'au lieu de dire à sa maman, à Marie, mais de quoi tu parles? Tu veux que je donne l'argent pour aller acheter du vin? Je n'ai rien. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus a répondu quoi? Femme, dites la lecture. Jésus a répondu verset 4. Bon, on dit non plus de vin. Quelle est cette histoire d'une heure qui n'est pas encore arrivée? Et puis Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Si tu peux résoudre son problème, dis, mais maman, tu t'attends à quoi? Je n'ai pas d'argent. Mais c'est comme s'il y avait un code, quoi. Hein? Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Un peu comme si dans la question de Marie, Jésus avait entendu, ton heure est arrivée, fais ton premier miracle. Et Jésus lui répond, mon heure n'est pas encore arrivée. On continue la lecture. Donc, deuxième chose bizarre. Verset 5. Mais mes amis, la réponse de Jésus là, ça ne veut pas dire que rien ne va se passer. C'est un peu comme s'il a renvoyé, non? Mon heure n'est pas arrivée, tu me veux quoi? Marie a entendu ça, verset 4. A entendu ça au verset 4. Au verset 5, qu'est-ce qu'elle dit? On lit ensemble. Faites ce qu'il vous dira. Le monsieur dit, ce n'est pas mon heure. Je ne veux rien faire. Elle se retourne. Elle dit, il va vous dire quelque chose. Faites. Il va vous donner des instructions. Respectez-les. Il n'a jamais fait de miracle. Il n'y a pas d'antécédent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et Jésus, en même temps, son heure n'était pas arrivée, mais dans la minute suivante, l'heure arriva. Il dit aux disciples, prenez les vases de purification, mettez-y de l'eau. J'ai trouvé ça bizarre aussi, parce que je crois qu'on ne doit pas utiliser les vases qui sont consacrés à Dieu pour faire la fête, quoi. Et le vin. Normalement, il aurait pu prendre les vases vides qui restaient. Parce que si le vin venait à manquer, c'est qu'il restait des vases. Au moins les récupérer, les faire rincer, je ne sais pas, mettre de l'eau là-dedans. Mais il va prendre des vases et six. Il y avait quoi six? On va apprendre pourquoi six. Il a pris six vases. Il y a un sens. Amen. Il prend six vases, il met de l'eau. Ça, c'est bizarre. Pourquoi de l'eau? Dans la Bible, chaque fois qu'il y a un miracle de multiplication d'un aliment ou d'un élément, Dieu parle toujours du même élément. Lorsqu'il veut donner du pain aux gens, il multiplie le pain. Il ne va pas prendre de la banane pour prier pour que la banane devienne du pain. Il dit, qu'est-ce que vous avez vendu? On a cinq pains, deux poissons. Cinq pains deviennent des milliers de pains. Le poisson devient des poissons. Dans l'Ancien Testament, une femme avait besoin d'huile. C'est l'huile qui est devenue de l'huile. C'est toujours la même matière qui est multipliée, jamais une matière différente. Dans ce cas-ci, Jésus ne va pas prendre les résidus de vin. Il va prendre de l'eau. Et l'eau va être transformée en vin. Dis-moi, c'est bizarre, non, l'histoire? Alléluia. Alléluia. Mais toutes ces choses étranges cache des clés très puissantes. Ça cache comment rencontrer l'homme de ta vie. Ça cache les choses que tu dois savoir. Dans ce même miracle-là, il y a si ton foyer ne va pas, comment le restaurer? Tout est dedans, dans cette petite histoire. C'est une histoire dangereuse. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a restauré le vin. Dis avec moi le vin. Le vin. Pour comprendre toute cette histoire, il faut comprendre le vin. Parce que c'est une histoire de vin. Dans cette affaire, c'est une histoire de vin. Le vin dans la Bible a un sens. Touche un voisin, dis-lui un sens. Il faut connaître, pour connaître le sens, il faut aller dans le livre des Cantiques des Cantiques. La Bible dit dans le livre des Cantiques que le vin, c'est l'amour. Donc, si on veut interpréter sur la base de la parole de Dieu, il y avait un premier vin dans le mariage qui est venu à manquer. C'est une manière de dire, il y avait un premier amour qui a manqué, qui a disparu. Et Jésus, en créant le deuxième vin, a amené un nouveau type d'amour. Et quand les hommes ont goûté le nouveau type de vin, donc, comme je dis, c'est une histoire, c'est une métaphore, c'est une image en fait. L'histoire s'est produite réellement, mais Jésus à l'intérieur voulait donner une leçon pour les familles, pour les couples. Alléluia. Il a béni des noces. C'est une manière de bénir le mariage. Amen. Le deuxième vin est de meilleure qualité que le premier. Et l'organisateur du mariage a dit ceci, dans nos mariages en Israël, là, on boit d'abord le meilleur vin, et puis à la fin, quand on est ivre, là, on boit le mauvais vin. Et il dit au mari, mais pourquoi toi tu as gardé le bon vin pour la fin? Yeah. Oh Seigneur, que Dieu nous aide à saisir. Amen. Le vin, c'est l'amour. Il y a un vin d'amour dont les foyers ont besoin, que seul Jésus est capable de donner. L'amour qui bâtit réellement les foyers. L'amour, le vrai. Le premier vin là, ce n'est pas le bon. Lui, il va toujours finir par manquer. Mais c'est quand même du vin. Pourquoi la Bible appelle l'amour le vin? Parce que lorsqu'on est amoureux, on se comporte comme des gens ivres. Vous savez ça? Oui, quand tu es amoureux, André, tu as bu, hein? Ouh! Mais un homme très calme dans la vie, très organisé, lorsqu'il tombe amoureux, chaque 5 minutes, des SMS, bonjour, où tu vas? Où tu es? Est-ce que c'est normal ça? Quelqu'un avec qui tu parles tous les jours. Vous savez, quand on est ivre là, on parle seulement, on n'est pas fatigué de parler. Quand on est profondément amoureux, on n'est jamais lassé de parler avec la personne qu'on aime. Vous avez toujours des choses à vous dire. Toujours. Quand on tombe amoureux, j'ai vu des jeunes filles, des jeunes gens sauter les clôtures. Des gens qui étaient respectueux de leurs parents. À cause de leur cœur. Quand on tombe amoureux, même les personnes qui n'aimaient pas dépenser commencent à sortir l'argent. Je peux te faire plaisir. Pour toi, je peux tout. Je peux tout offrir. Je t'offrirai la lune. Ça, c'est le premier vin. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas dire en temps normal, tu le fais. Quand on est amoureux, on est bizarre. Tu dors comme ça, tu penses à la personne, tu es en train de travailler. Et puis son image vient dans ton cœur comme ça, fia, ça arrive, puis tu penses à elle. Et la fille là, elle me dérange. La fille aussi, elle est là. Mais le mec là, je pense à lui. Hein. Là, tu es amoureuse. Tu es amoureux. Qui a une fois été amoureux? Il y en a qui ont le cœur froid. Hein. Elle dit, tombe jamais amoureux. Mais en tout cas, qui a une fois été amoureux? Non, on reconnaît qu'on est déjà amoureux. Qui a un cœur froid, ils ne tombent pas amoureux. Il faut reconnaître, on va prier pour toi, ce n'est pas normal aussi. Alléluia. Oui, l'amour crée une sensation d'ivresse. L'amour fait que tu ne calcules pas trop. L'amour fait que devant la personne, tu ne calcules pas trop à faire des salaires sur la fin du mois. Tu n'as pas trop calculateur. Tu peux tout dépenser et tu as la foi que demain, tu auras l'argent encore. L'amour fait que tu trouves l'argent pour inviter toujours celle que tu aimes au restaurant. L'amour fait que toi qui es si calculateur avec tes finances, si elle te dit, je vais. Bon, donne-moi un truc à manger là. Je veux une pizza. Pizza, ça fait près de 10 000 francs. Toi, avant de sortir 10 000 francs, mon frère. C'est difficile pour toi d'avoir 10 000 francs. Mais quand tu tombes amoureux, tu deviens fou. Tu vas aller chercher 10 000 francs pour venir offrir à celle que tu aimes. C'est l'amour qui rend comme ça. Et ça, c'est le vin. Quand tu bois le vin, tu es ivre. Mais à un moment donné, le vin finit en toi. Donc à un moment donné, l'amour finit en toi. C'est ce que la Bible dit. Le vin est venu à manquer. Quand l'amour finit, tes yeux s'ouvrent sur ton conjoint. Quand tu étais ivre de son amour, tu ne voyais pas qu'elle parlait beaucoup. Quand tu étais ivre, tu ne voyais pas que le mec que tu aimais là, il était un peu coléreux. Et tellement, on te dit, mais ton gars là, il s'énerve. Hein? Tu dis, Dieu le changera. Tu sais, non, mais il s'énerve, il sait pourquoi. Tu le justifies pour tout. Là, quand là, le verre remplit le cœur, là, tu excuses toutes ses erreurs, tu fermes les yeux. Tu ne vois même pas ses défauts. Toi, une femme si ponctuelle, il te donne rendez-vous, il arrive un peu en retard, tu es un peu fâché. Tu dis, pourquoi tu es venu en retard? On laisse tomber. Hein? Demande-moi pardon, demande-moi pardon. Il demande pardon, tu dis c'est fini. Voilà, alors on va manger, hein? Alors on restera. Voilà, quand on a l'amour, on pardonne les retards, on pardonne tout ça. Mais à un moment donné, le vin finit par manquer. C'est-à-dire, si tu étais ivre, là, tes yeux s'ouvrent à un moment donné. Quand tu as bu, là, si tu te blesses, tu ne sens pas. Mais quand l'alcool quitte ton corps, tu te rends compte que tu t'es coué la tête. Tu as fait. Donc c'est en ce moment-là, quand le vin de l'amour vient à manquer, tu te rends compte des défauts de ton conjoint. Tu vois que le gars, il est avare. Et puis maintenant, avant tu laissais tomber, hein, mais ça te fait mal maintenant. Dis-toi là, ton argent n'a qu'à sortir un peu. Quand une femme commence à parler, quoi, ton argent n'a qu'à sortir un peu, ça veut dire que le vin a commencé à diminuer. Alléluia. Quand le vin continue, quand le vin commence à diminuer, à baisser, si vous appelez 10 fois par jour, les appels vont être réduits d'abord 2 fois par jour. On s'appelle le matin, le soir. Le vin baisse encore 1 fois par jour. Le vin diminue encore. Peut-être vous entrez même dans le mariage déjà. Même vous appeler par jour, c'est rare. Quand le vin était là, quand ton conjoint t'appelait, ta future femme, au bureau, tu vois son numéro s'affiche. En pleine réunion même avec ton DG. Tu prends le téléphone, tu t'abaisses sous la table. Chérie, je suis occupé. Je te rappelle. Ça, c'est quand il y avait le vin. Quand le vin vient à manquer, quand tu vois son numéro, ah, elle veut quoi encore? Tu fatigues les gens, tu es au travail, tu appelles. Un gars qui parle quoi à sa femme, et le vin est venu à manquer. Quand il y avait le vin, je suis occupé, chérie, je te rappelle. Dès que la réunion est finie, ça va? Bisous. Pourquoi tu ne m'as pas appelé directement? Oh, j'étais en réunion. Ok. Mais quand le vin vient à manquer, mais j'étais. Pourquoi tu m'appelles comme ça même? Mais quand tu vois même son numéro, même ton cœur, surtout quand le vin même a manqué, et puis on a raclé là. Là, c'est grave. Ça veut dire, toutes ces actions t'énervent. Le vin est fini. Alléluia. Écoutez-moi. Toutes les manières dont les hommes se marient aujourd'hui, ils se marient avec le mauvais vin, le mauvais amour. Ça finit toujours par manquer. Ça va finir après 4-5 ans de votre mariage. Certains après 3 ans. D'autres même la première année du mariage, leur vin d'amour disparaît. Il y en a même, ça disparaît pendant les fiançailles. Mais ils se disent que ça va s'améliorer après. Il y a un autre vin, il y a une autre manière d'aimer qui est dégagée seulement que par Christ. C'est cet amour-là qui bâtit le foyer, qui atteint son potentiel. Pas le premier vin. Le premier vin ne va jamais déployer votre vraie capacité. Le mariage ne sera pas aussi riche si vous vous mariez sur la fausse base. Il y a quelque chose de plus. Alléluia. Et maintenant, je vais le développer. C'est à peu près la même introduction que j'ai donnée il y a quelques années sur ce thème. Mais ce que je vais développer sera, je n'ai pas dit différent, sera complémentaire. Je vais commencer, à partir des dimanches qui viennent, à toucher le premier aspect. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi a-t-il dit cela? Y a-t-il une heure pour amener le second vin? L'heure du second vin. Comment déclencher cela? Connaître les saisons du mariage. La première vague de sujets que je vais toucher, c'est ce que j'appelle les saisons du mariage. Alléluia. Si vous ne maîtrisez pas les temps et les saisons, vous allez détruire votre relation. Amen. J'ai dit tout à l'heure, un mari qui est jaloux, par exemple. Tu sais pourquoi tu as des problèmes avec lui? Tu sens qu'il est jaloux ce que tu fais. Mais en fait, tu l'as marié avant l'heure. Ça peut être ton homme, mais tu l'as marié trop tôt. Vous savez, il y a des erreurs. On parlera de ces choses. Il y a des choses que vous allez avoir forcément dans le couple. Mais il faut, si vous savez que c'est... vous n'êtes pas encore arrivé à la saison des bons résultats, vous êtes patient. Si votre bébé de 3 mois fait pipi dans sa culotte, vous allez être scandalisé. Est-ce qu'un homme doit faire pipi dans sa culotte? Si on te dit, voilà, un homme, il fait pipi dans sa culotte, tu ne seras pas dit, c'est grave. Mais ça dépend de l'âge aussi. Ce qui est une erreur pour quelqu'un qui a 15 ans n'est pas forcément une erreur pour quelqu'un qui a 3 mois. Si vous ne comprenez pas les saisons, vous allez faire des palabres pour des choses ou des résultats que vous n'étiez même pas censé avoir maintenant. Il y a des choses que tu attends de ton homme, mais ce n'est pas le temps de le voir. Tu vas le voir dans quelques temps. Mais parce que tu n'as pas vu ça arriver, c'est comme tu prends ton enfant. C'est quel garçon ça? Ah, tu es un homme et puis tu fais pipi. On ne fait pas pipi et puis tu frappes un bébé de 3 mois. Qui est folle dans cette affaire? On va apprendre les saisons du mariage. Il y a un temps où une femme et un homme envoient comme dans l'air le parfum pour dire, pour attirer l'homme ou la femme de leur vie. Il y a des blessures dans votre cœur qui peuvent tuer votre capacité à attirer la personne que vous devez rencontrer. Même si la personne est jusque en Papouasie, l'homme qui vous va, quand la période arrive, quand vous comprenez les saisons, si vous déclenchez, même si la personne est en Papouasie, soit c'est toi, quelqu'un va venir, va te faire aller en vacances en Papouasie, où le gars va se déplacer pour venir ici. Mais tout va se produire pour que vous vous rencontrez. Mais il se peut que tu aies quelque chose en toi, une frustration de ton passé, qui empêche ce phénomène divin de se mettre en action. C'est-à-dire le moment où tu dois parler dans les airs pour appeler la personne que tu dois rencontrer, ce moment-là est manqué. Tu rates ta saison. Mais ça peut arriver parce que tu as une maladie intérieure, inconsciente, due à tes précédentes frustrations, due à beaucoup d'autres choses. Ce sont des choses qu'il faut régler. On va apprendre à les corriger, on va rectifier ce qu'il faut rectifier. Et ceux qui sont déjà mariés, c'est bien de le savoir pour vos enfants, pour vos amis. Ceux qui n'ont pas besoin de mariage, il faut apprendre ces choses pour former d'autres. Ceux dont le couple a des difficultés, il faut avoir les clés pour résoudre votre foyer, afin que Dieu vous bénisse et que vous atteigniez votre destinée. Votre foyer est pour vous mener jusqu'au bout. Vous devez réussir votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ta parole. Que ta parole porte du fruit dans nos vies. Aujourd'hui, réveille notre intelligence à l'importance du mariage. Aujourd'hui, tu nous montres, Seigneur Dieu, que ta façon de voir n'est pas forcément notre façon de voir à nous. Donne-nous de nous convertir à ta manière d'apprécier le mariage. C'est toi qui as créé le mariage. Ce n'est pas à nous de te donner ce que le mariage doit être. Apprends-nous, révèle-toi à nous, afin de nous faire comprendre le sens, la vision, la destinée, Seigneur Dieu, du mariage que tu nous réserves ou du couple dans lequel nous sommes. Tu es là, ma soeur, tu es là, mon frère, même si tu connais des situations troubles en ce moment, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a une solution pour toi. N'y réfléchis même pas trop. Laisse-le transformer ton cœur. Laisse-le agir et tu verras les résultats. Peut-être que tu n'espères plus pouvoir te marier à cause de ton âge. Mais certainement que le Seigneur a bloqué les choses parce que tu n'étais pas prête. Enclenche. Rachète le temps, pose les choses que tu dois poser dans ta vie et tu verras que ton mariage va arriver assez rapidement. Le Seigneur est celui qui répond, le Seigneur est celui qui bénit, le Seigneur est celui qui crée le nouveau vin.
Motivé par cet enseignement, désires-tu plus? Rendez-vous à la librairie ou à l'espace discographique proche de chez toi. Pour d'autres compléments d'information, contacte-nous au 22 41 29 80 02 61 30 63 ou écris-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous t'invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com ou rejoins-nous à l'église Vase d'Honneur. Merci et demeure béni.